Previously.
Il binge-watchait déjà avant que ce soit cool. À la Carazé revient pour vous sur des séries cultes. Au menu aujourd'hui, Doctor Who.
Mais comme il n'y a pas que des séries dans la vie, je vais commencer par vous dire deux mots de cinéma. Grâce à notre sponsor, First Man, film qui est sorti le 17 octobre dernier, à l'occasion duquel a été développée une série inédite de podcast, 3h56, le premier homme sur la Lune. Deux mots, ou plutôt trois noms. Neil Armstrong, le premier homme à avoir marché sur la Lune et dont First Man raconte l'histoire poignante. Damien Chazelle, ça c'est l'extraordinaire réalisateur du film, à qui l'on doit notamment La La Land, le phénomène ciné de 2017. Et puis Ryan Gosling, ben, dont le nom se suffit à lui tout seul. Autant de raisons donc d'aller voir First Man le 17 octobre en salle. Avant de commencer à vous parler de Doctor Who, je dois vous préciser quelque chose de très clair et qui vous permettra d'être apprécié et respecté de tous vos amis Whovian. Ouais, c'est ainsi qu'on appelle les fans de la série, hein, les Whovian. C'est pas moi, ça, j'ai pas inventé, c'est pas ma faute. Doctor Who n'est pas le nom du personnage. Il ne s'appelle pas, ni se fait appeler, Who. Hein, c'est pas Monsieur Who, oui, c'est le Docteur. Docteur Who, c'est le nom de la série. Donc si jamais vous me surprenez à dire le Docteur Who, eh bien c'est une erreur, ça mérite un blâme, et pour vos amis aussi. Doctor Who est la plus longue série de science-fiction au monde et un phénomène dans son pays d'origine, la Grande-Bretagne, où elle est devenue une véritable institution. Depuis la nouvelle version en 2005, elle est devenue populaire dans le reste du monde, où elle génère un fanatisme que l'on peut comparer à celui qui est porté à Star Trek. Dans sa première incarnation, elle est parvenue à passionner plusieurs générations de spectateurs grâce à l'attachement porté à ses protagonistes et à d'excellents récits de science-fiction. Dans sa version moderne, elle se renouvelle constamment et permet à n'importe qui de la rejoindre en route. Car oui, si vous vous dites « Oh mon Dieu, 55 années, je vais être largué, si je m'y mets maintenant, c'est pas possible, je vais vous détromper. » Le concept en est d'une simplicité déconcertante, des aventures à travers le temps et l'espace. Et ça laisse libre cours à l'imagination des scénaristes. Donc le faux débat de savoir à partir de quand on peut regarder la série ou s'il faut tout voir avant n'a pas lieu d'être. Tant elle est truffée, toutes les deux ou trois saisons, de portes d'entrée. Cependant, son ton est très british, son style est assez débridé, son héros est frénétique, et ses trames, où se télescopent énormément de concepts improbables et surréalistes, peuvent vous irriter ou vous séduire, c'est selon. Dans mon cas, c'est plutôt séduire, hein, mais enfin quand même. En tout cas, elle ne vous laissera pas indifférent. Le Docteur est un voyageur spatio-temporel appartenant à une race extraterrestre, les seigneurs du temps de la planète Gallifrey. Il utilise un TARDIS. Le TARDIS, c'est l'acronyme pour Time and Relative Dimension in Space, la machine des Time Lords, des seigneurs du temps donc, qui voyage dans l'espace aussi bien que dans les époques et s'implique dans des aventures aux confins de la galaxie, dans un lointain futur, dans le passé ou sur la Terre. Plutôt que d'avoir l'apparence d'un traditionnel vaisseau spatial, oui, c'est pas l'Enterprise, le TARDIS a une grande salle de pilotage et d'autres pièces, mais à l'apparence extérieure d'une cabine d'appel de la police britannique des années 60. En gros, une cabine téléphonique bleue, hein, qui fait moins de 2 mètres carrés. Le Docteur, quant à lui, n'a pas de super pouvoir, mais une connaissance élargie de tout l'univers, ses races et ses planètes. Il est assez extraverti, voire excentrique, et même autoritaire. C'est un solitaire qui a cependant besoin de partager ses voyages avec des compagnons humains. Enfin, le Docteur est un extraterrestre, donc il peut changer de corps. Ben oui, quand même, hein. Il a en effet le pouvoir de se régénérer et de devenir alors quelqu'un d'autre, permettant ainsi à un acteur de laisser la place à un autre. Ça arrive souvent autant dans les séries que dans les films. Pensez au nombre d'interprètes qui se sont succédés dans le rôle de James Bond, par exemple. Sauf que là, c'est cohérent. Ça fait partie de l'histoire elle-même. Et à chaque fois, cela permet à la série de changer de style, de personnalité, tout en restant fidèle à son historique. Et voilà ce qu'en disait un des derniers interprètes du Docteur, Peter Capaldi, accompagné de Gina Coleman, au journaliste Roman Gita et à moi-même, alors qu'on était venu à leur rencontre en 2015. Doctor Who est en quelque sorte une figure de la mythologie. C'est un peu un croisement entre le magicien d'Oz et Edouard aux mains d'argent, quoi. Ce n'est pas un inspecteur de police, c'est pas un vétérinaire ou un de ces personnages de séries traditionnelles. C'est un personnage qui vient du fin fond de la forêt, quoi. Un Gandalf cosmique? Ouais, ouais, quelque chose comme ça. Comme la version dite classique de Doctor Who n'a pour ainsi dire jamais été diffusée dans notre pays, à part une poignée d'épisodes que votre serviteur en personne avait fait acquérir à TF1 initialement pour l'émission Temps X, et qui ont fini déstockés dans le Club Dorothée Weekend en 1988 et dans le désordre le plus total, je ne vais donc pas vous faire un long résumé de ces 695 épisodes diffusés pendant 26 années. Ouais, voilà, rassuré, ouf. Mais quand même, voici les grands moments de la série. Le Docteur des Origines est interprété par William Hartnell. Il était plutôt dans le genre grand-père excentrique, un peu autoritaire. Il avait une petite fille, Suzanne, et explorait surtout les grandes périodes de l'histoire, comme l'époque de Marco Polo ou les Aztèques. Mais s'il y a un seul grand moment à retenir, c'est dès la deuxième aventure du Docteur, l'apparition des Daleks sur la planète Thals. Créé par Terry Nation, ces poubelles retournées qui hurlent d'une voix nasillarde et mécanique « Exterminée !» devinrent les ennemis jurés du Docteur et un phénomène populaire d'envergure. Par la suite, la liste des ennemis hauts en couleur s'allongea avec les Zygons ou les Cybermen. La deuxième incarnation du Docteur, avec Patrick Troughton dans le rôle titre, insiste un peu plus sur le côté malicieux et humoristique du personnage et en gomme l'aspect vieux prof autoritaire un peu pesant. C'est un mélange entre Merlin l'Enchanteur et Charlie Chaplin. Ses origines et son identité, le fait qu'il fasse partie de la race des seigneurs du temps, ne sont révélés qu'à la fin de la sixième saison, en juin 1969. Auparavant, le mystère régnait. Bon, les scénaristes, en fait, n'avaient rien défini de précis. Début 1970 marque plusieurs changements pour la série. Tout d'abord, la couleur, parce que jusqu'alors, les épisodes étaient enregistrés en noir et blanc. De nouveaux responsables à la production, Barry Letts et Terence Dix, qui avait pour tâche de moderniser la série, et enfin John Pertwee en nouvel interprète du personnage. Flamboyant, très premier degré, à la stature imposante, c'est un mix de John Steed et de James Bond, hein, pour vous représenter un peu le personnage. Un renégat, quelquefois un peu arrogant, qui est assisté par un compagnon et même un brigadier d'une unité spéciale de la police chargé de lutter contre les menaces extraterrestres. Il a même droit maintenant à son ennemi juré, un autre seigneur du temps, mais diabolique celui-ci, le Master. C'est en quelque sorte le Moriarty du Docteur. Un ton plus sérieux des histoires qui frôlent le genre horrifique, au grand dam de la Chambre des Lords qui va même jusqu'à évoquer ce point. Au milieu des années 70, c'est le comédien Tom Baker qui fait du personnage un explorateur curieux, connu pour son sourire énigmatique à la Chat du Cheshire dans Alice au Pays des Merveilles, mais résolument extraterrestre dans son comportement. Au sommet de sa popularité, la série se permet de longues histoires couvrant quelquefois la saison tout entière. À un moment, le Docteur sera même accompagné par une seigneur du temps, Romana, et aussi par un chien robot K9. K9, K9, ça y est, vous avez compris. Avec Peter Davidson au début des années 80, la série se fait un nouveau lifting, sous la houlette d'un nouveau producteur, Jonathan Turner. Le personnage est rajeuni pour séduire un public plus large, les aventures sont définitivement orientées science-fiction. En 1983, c'est le 20e anniversaire de la série, et il est marqué par un téléfilm spécial, Les 5 Docteurs, réunissant tous les docteurs précédents. Chacun d'entre eux est extrait du passé pour lutter contre une menace commune. Cela avait déjà été le cas 10 ans plus tôt dans une histoire intitulée « Les trois docteurs ». En 1984, le nouveau docteur est dépeint par son interprète Colin Baker comme arrogant et égoïste, et son successeur, en 1987, Sylvester McCoy, insiste sur le côté comique et manipulateur du personnage. Et d'ailleurs, Sylvester McCoy nous en a parlé en 2014, alors qu'il était invité de la convention Toulouse Game Show. Quand j'ai débarqué, je n'avais pas vu Doctor Who depuis des années. J'avais une vague souvenir de Patrick Troughton, qui était mon premier docteur. Je l'avais vu, j'adorais, et je m'en souvenais un peu, donc. Je m'en souvenais que c'était, peut-être à tort, un personnage un peu clownesque. Donc, quand je suis arrivé, j'ai amené mon propre instinct comique, et je l'ai adapté au rôle. On m'a donné un costume, et hop, c'était parti. Je n'avais aucune direction spécifique à suivre. J'ai donc créé ce personnage. Puis, en avançant dans les épisodes, j'ai découvert que Doctor Who est un rôle étonnant, un des meilleurs rôles de la télévision. Il a de nombreuses facettes. Et on peut faire tant de choses avec lui. Et aussi, j'ai tenté de faire ressurgir le mystère qui entoure le personnage. Le premier docteur. Docteur Who ? Docteur qui ?
Who is he ?
Ensuite, en 1989, la série s'arrête. Et on ne retrouvera le personnage que très occasionnellement dans des mini-épisodes spéciaux ou dans un téléfilm américain en 1996 avec Paul McGann dans le rôle principal. Et maintenant, on va faire comme le docteur, un bond dans le temps. Hop, de 96, on arrive en 2005. Alors qu'elle va à son travail, la jeune Rose Tyler, interprétée par Billie Piper, va être sauvée de mannequins devenus vivants par un homme étrange, le docteur. Ce coup-ci, il est incarné par Christopher Eccleston et il va l'entraîner dans le TARDIS dans de nouvelles aventures trépidantes, dans un futur lointain, sur Terre ou sur d'autres planètes. Une nouvelle fois, la compagnon humaine va servir de Candide et sera l'équivalent du spectateur qui découvre ce nouvel univers. Toute la mythologie de la série est redécouverte à travers un regard entièrement neuf. Cependant, dans l'intervalle, entre 1989 et 2005, il y a eu la guerre du temps. Elle semble avoir provoqué la disparition non seulement des Daleks, mais surtout des seigneurs du temps, dont le docteur est maintenant le dernier survivant, une sorte d'orphelin galaxial. On en apprendra plus sur cette guerre du temps quelques années plus tard, à l'occasion des 50 ans de la série. Et on découvrira une incarnation transitoire du docteur entre celle de Paul McGann et celle de Christopher Eccleston, le War Doctor, le docteur de la guerre, qui, dans la série, a été interprété par John Hurt. Mais revenons à la fin de cette première saison nouvelle version, les Daleks sont de retour et le docteur se régénère déjà. Même si tous les épisodes sont indépendants, il y a un fil rouge qui se présente, la mention omniprésente de Bad Wolf se met tout du long de la saison et qui trouve son apogée dans l'épisode final. Dans un des épisodes de cette saison initiale, Stephen Moffat, ressouvenez-vous de ce nom, crée le personnage du capitaine Jack Harkness, un voyageur du temps omnisexuel et qui deviendra immortel, interprété par l'acteur ouvertement gay John Barrowman. Non seulement ce personnage flamboyant et charismatique reviendra lors des saisons suivantes, mais il aura sa propre série, Torchwood, anagramme de Doctor Who, où le capitaine, donc Jack Harkness, et son équipe gèrent depuis la base de Cardiff les phénomènes surnaturels et extraterrestres. Dans sa nouvelle incarnation, la dixième, via l'acteur David Tennant, le docteur va fréquenter la reine Victoria, il retrouvera des vestiges de son passé, le chien robot Canine par exemple, et surtout son ancienne compagnon Sarah Jane Smith, qui aura par la suite droit à sa propre série dérivée, 5 saisons de suite, avant de décéder en 2011. Enfin, après les Daleks, c'est aux Cybermen de revenir et de s'affronter, pour la première fois dans la série, dans les derniers épisodes de la saison. Malheureusement, le docteur devra abandonner Rose sur une terre parallèle. Dès l'aventure suivante, il croisera la vociférante Donna Noble en plein mariage. Et ensuite, il fera de Martha, une jeune étudiante en médecine, sa compagnon dès la saison 3. Lors de cette brillante saison 3, le scénariste Stephen Moffat invente des monstres particulièrement inoubliables, les anges pleureurs. Des statues en apparence, mais qui se déplacent vers vous pour mieux vous agripper et vous envoyer dans le passé dès que vous ne les regardez pas. À peine si vous clignez des yeux, et hop, ils sont sur vous. La saison 3 s'achève avec le retour du Master, le maître, l'ennemi juré du docteur et seigneur du temps comme lui donc. C'est Derek Jacobi, qui fut le moine enquêteur Cadfael à la télévision, qui tient initialement ce rôle, puis il est incarné avec un degré supplémentaire de démence par John Sim. La saison 4, toujours avec David Tennant, qui décidément pour énormément de fans est quasiment le docteur favori, est marquée par la création de créatures angoissantes, les Hoods, toujours avec leurs boules de lumière à la main. On donne aussi une fille au docteur, Jenny, et son interprète, Georgia Moffat, est la fille de Peter Davidson, qui interprétera le rôle du docteur dans les années 80. Et elle est devenue Madame David Tennant en 2011. Eh ouais, tout est lié. Comme toujours, la série puise dans sa mythologie pour faire ressurgir certains de ses éléments. Après les Daleks, après les Cybermen, ce sont les Sontaran qui reviennent, ainsi que l'UNIT, la section d'intervention contre les extraterrestres, inventée dans les années 70. Mais la création la plus ambitieuse est celle du professeur Riversong, une femme fantasque, mystérieuse, qui apparaît et meurt dans le double épisode « La bibliothèque des ombres ». Visiblement, elle connaît bien le docteur. Elle dit même avoir été sa femme. Mais cela a lieu dans de futures aventures. Ouais, c'est un peu compliqué parce que le scénariste Stephen Moffat utilise au maximum les possibilités de saut temporel. Il va donc suivre ce personnage en commençant par la fin pour nous montrer sa naissance au fil des prochaines saisons. Et bah, c'est même pas spoiler, je vais tout vous dire. Elle est la fille de Rory et de Amy, un couple qui accompagnera le docteur dans quelques années. Riversong est magistralement interprété par Alex Kingston, déjà mondialement connu pour son rôle dans la série Urgence. La fin de cette saison est un méga crossover, puisqu'elle réunit quasiment tous les personnages lancés depuis le retour de la série. Rose, ouais, même si elle est toujours sur un monde parallèle, Rose donc, sa mère Jackie, Mickey, Sergeant Smith, le Capitaine Jack et Martha. Histoire de faire la transition avec une nouvelle ère, l'année suivante ne comportera que 4 épisodes spéciaux, disséminés durant toute l'année. Le grand final en deux parties voit le retour des Seigneurs du Temps, qui finalement n'avaient pas tant disparu que ça, avec à leur tête une vedette invitée prestigieuse, Timothy Dalton, un ex-James Bond. John Sim reprend aussi le rôle du maître, et empoisonné par des radiations, le docteur se régénère à nouveau. Dès le début de l'ère du 11e docteur, une trame se développe, avec une fissure dans l'espace-temps qui apparaît dans la maison d'enfance de Amelia Pond, dit Amy, la première à découvrir la nouvelle apparence du docteur, pour le surnommer d'ailleurs Raggedy Man. La saison multiplie les rencontres improbables à travers les époques. Winston Churchill face aux Daleks, des vampires à Venise au XVIe siècle et Vincent Van Gogh que le docteur va aider à reprendre confiance en son art. Fil rouge de la saison, la boîte de Pandore qui s'ouvre enfin, révélant alors le docteur qui a été retenu prisonnier depuis des siècles. Ouais, c'est un peu compliqué, mais bon, voilà, je peux pas vous le décrire autrement, sinon on y passera des heures. La saison 6 possède un arc narratif encore plus complexe. Le docteur meurt dans le premier épisode, mais c'est en fait un docteur du futur. Bon, vous notez qu'il y a de plus en plus d'histoires où l'on joue avec le voyage dans le temps, un paradoxe temporel, avec une narration qui n'est pas linéaire. Eh bien, c'est une spécificité du scénariste Stephen Moffat. Il nous en parlait en 2011. Le personnage vit dans une machine à voyager dans le temps. Il n'est pas simplement son propriétaire, il vit dedans. Il a l'univers tout entier à portée de sa main, donc cela va obligatoirement modifier la façon qu'il a de voir le monde. Il peut rencontrer n'importe qui. Il peut être à vos funérailles demain et à votre bar mitzvah le lendemain. C'est un peu effrayant. Apparaît aussi dans cette saison un trio dont les membres vont devenir des personnages réguliers de la série. Madame Vastra, sa servante Jenny Flint et le Sontarien Strax. Les premiers épisodes de la saison suivante sont autant de mini-films aux ambiances toujours différentes. Des dinosaures dans un vaisseau spatial, un robot tueur dans une ville du vieil ouest américain, le retour des anges pleureurs à Manhattan, autant d'univers différents qui préparaient la grande célébration du 50e anniversaire en 2013. Cependant, Stephen Moffat ne peut pas s'empêcher de disséminer les graines de ses prochaines intrigues et on voit apparaître au fil de ces épisodes, sous une apparence ou sous une autre, le personnage de Clara Morgan. En fait, c'est la prochaine compagnon du Docteur, interprétée par Gina Coleman, tout droit sortie de Downton Abbey. C'est plus tard que nous aurons l'explication des apparitions de celle que le Docteur appelle déjà « la fille impossible ». Le fil rouge de cette deuxième moitié de la saison sera le nom du Docteur et là, je ne vous dis rien. Sur la planète Trenzalor se trouve la tombe du Docteur, le lieu de repos de toutes ses incarnations, et c'est à cette occasion que nous découvrons l'existence d'un Docteur jusqu'alors resté inconnu. Et c'est un Docteur qui agit durant la guerre des Seigneurs du Temps et les Daleks. L'épisode des 50 ans de la série voit David Tennant revenir aux côtés de Matt Smith et donc de John Hurt dans le rôle de ce Docteur de la guerre, le War Doctor. Et ça culminera avec la réunion des puissances des 13 Docteurs réunis pour ainsi modifier le cours du temps et sauver Gallifrey. En fin d'année, le traditionnel épisode de Noël est le dernier pour Matt Smith. Après avoir gagné un nouveau cycle de régénération, le docteur se régénère. Il prend l'apparence de Peter Capaldi, qui était tout droit sorti du rôle du cardinal Richelieu dans la nouvelle version télé des Trois Mousquetaires.
The funny thing is, I think that probably,
ce qui est drôle, c'est que je suis l'acteur que je suis parce que, sans l'ombre d'un doute, j'ai grandi en aimant tous ces docteurs. Donc, il y a obligatoirement tous ces gens qui vous ont influencé. J'ai idéalisé Laurence Olivier et Peter Cushing et Christopher Lee et tous les interprètes du docteur. Donc, ce sont aussi un peu les interprètes que j'aime et je pense qu'il y aura toujours un peu de Docteur Who en moi, que j'interprète le rôle ou pas.
Whether or not I'd played Doctor Who or not.
Le fil rouge de la première saison avec Peter Capaldi, en 2014, est l'identité d'un personnage mystérieux, Missy. La saison 9 a l'originalité de présenter des histoires systématiquement en deux parties. Il est question tout au long de la saison d'une mystérieuse créature hybride, mi-seigneur du temps, mi-Dalek. Et elle se termine par le sacrifice ultime de Clara. Durant la 10e saison, le Docteur, assisté de Nardole, est à nouveau confronté au Maître, à la fois sous l'apparence de John Smith, puis sous sa dernière incarnation en date, Missy, eh oui, interprétée par Michelle Gomez, que nous avions déjà rencontré les saisons précédentes. C'est aussi la venue de Bill Potts, la nouvelle compagne du Docteur, incarnée par Pearl Mackie. Celle-ci va cependant tomber entre les mains des Cybermen. Dans le dernier épisode de l'année 2017, le dernier Docteur croise le tout premier au moment de sa première régénération. En paix, il se régénère lui-même et devient une femme, incarnée par Jodie Whittaker. Et maintenant, rentrons dans le TARDIS et retour en arrière, 1963. Doctor Who a été lancé par Sidney Newman. C'est le créateur de Chapeau Noir et Bottes de Cuir et il était directeur de la fiction de la BBC à l'époque. Son idée, simple et pourtant en potentiel limité, se résumait à une page de notes. En bref, il désirait faire un programme pour enfants prévu pour être diffusé le samedi en fin d'après-midi et qui pouvait raconter les aventures d'un vieil extraterrestre excentrique partiellement sénile. C'est cette base que la productrice Verity Lambert et son équipe, composée de Donald Wilson, de David Whittaker et des scénaristes John Lucarotti, Dennis Spooner, Louis Marks et Terry Nation, déclinèrent pour faire Doctor Who. Le 23 novembre 1963, le premier épisode de la série A Unearthly Child est diffusé sur la BBC, donc le samedi en fin d'après-midi. Mais le tragique assassinat du président Kennedy, qui se produisit la veille, manque de plomber le lancement de la série. Le premier épisode est rediffusé la semaine suivante. Comme la majorité des fictions de l'époque, Doctor Who a un format qui nous paraît maintenant extrêmement désuet. La série est tournée en studio, en vidéo. Mais on est en 63, hein, donc c'est vidéo de l'époque, dans les conditions du direct, avec plusieurs caméras qui s'enchaînent, un peu comme une émission de variété, quoi. À part quelques inserts d'extérieur, tout se déroule donc dans des décors en intérieur. De plus, chaque aventure est divisée en 4 ou 6 épisodes d'une demi-heure. À l'antenne, une seule aventure dure donc près d'un mois. Il faut attendre la deuxième aventure du Docteur pour vivre la passionnante histoire écrite par Terry Nation, The Daleks, pour que la presse et le public s'embrasent. Un an après, une seconde histoire où les Daleks ont envahi Londres fait grimper Doctor Who dans le top 10 des taux d'écoute. Il devient alors évident que la série n'intéressait pas uniquement les enfants, mais aussi le reste de la famille. La folie des Daleks s'empare alors de l'Angleterre et éclipse même le personnage du Docteur. Jouets, bandes dessinées, livres et même un premier long métrage. Il s'appelle Doctor Who et les Daleks. Il est avec Peter Cushing dans le rôle principal. Et puis, l'année suivante, un deuxième film, Les Daleks envahissent la Terre. Tous les deux sont des remakes des histoires vues déjà dans la série. Il y a même eu une pièce de théâtre. Surfant sur cette popularité, la série télé se lance dans un space-opéra absolument terrifiant en 12 parties, donc 3 mois de diffusion, ce Dalek Masterplan. Cette histoire où des compagnons trouvent une fin tragique, ce qui est une première à la télévision, est considérée comme la plus formidable aventure du Docteur, sauf que même si vous le souhaitez, vous ne pourrez jamais la voir. Et oui, en effet, durant les années 60, la BBC décida d'effacer, et vous avez bien entendu, effacer des bandes vidéo originales pour en faire des bandes vierges libérées aussi de la place dans leur stock. Ils ne voyaient absolument pas qui pouvait bien s'intéresser à cette ancienne série pour enfants. Ils effacèrent donc énormément de programmes et une centaine d'épisodes des 5 premières saisons de Doctor Who. Ils sont disparus à tout jamais. Sauf si, au fil des décennies, on retrouve des copies, des doubles ou des copies films quelque part dans le monde. En 1966, on est obligé de remplacer Bill Hartnell, dont l'état de santé décline. Et donc, c'est un nouvel acteur, plus jeune et plus jovial, qui prend sa place. Doctor Who connut une nouvelle ère avec Patrick Troughton, le nouveau docteur. En janvier 1970, nouveau docteur John Pertwee, qui arrive sur les écrans pour une série dorénavant en couleur, donc, et dont l'action contemporaine s'est située sur Terre. Le docteur y était exilé par les seigneurs du temps. C'était un bon moyen de rendre la série plus proche du public familial et moins coûteuse. Barry Letts, le nouveau producteur, et Terence Dix, promu responsable des scénarios, font alors entrer dans le programme dans une ère d'action, de violence et d'horreur. Honnêtement, c'est peut-être les meilleurs épisodes de cette période. En 1974, Barry Letts et Terence Dix quittent la série, ainsi que John Pertwee. Il est remplacé par Tom Baker dans le rôle, alors que Philip Uncliffe reprend le flambeau de producteur et que Robert Holmes, celui de responsable des scénarios. La deuxième aventure de ce docteur-là, ce Ark in Space, fut suivie par un nombre record de 14 millions de téléspectateurs pour la seule Grande-Bretagne. Vous vous rendez compte ? 14 millions pour une petite série le samedi en fin d'après-midi. Même la super-production de Gerry Anderson, Cosmos 1999, qui est diffusée à la même heure sur la chaîne concurrente, ne parvient pas à déloger Doctor Who des sommets de l'audimat. La 16e saison de la série fut marquée par la diffusion de la 100e aventure, et donc du 500e épisode. En 1980, le nouveau producteur de la série allait le rester jusqu'au bout et en être le plus formidable ambassadeur. Il multiplie les conférences, les voyages à l'étranger, les séances photos et les reportages télé. Il s'appelle John Nathan Turner, c'est une véritable figure de proue emblématique. Plus concrètement, il améliorera l'apparence de la série, son générique, ses effets spéciaux et ses vedettes invitées. Et il choisit comme successeur à Tom Baker le tout jeune Peter Davidson. Ensuite, Peter Davidson laissa sa place à Colin Baker en 1984. C'était une époque où la série était menacée d'annulation par le directeur des programmes de la BBC. Et il faudra un tollé de protestations pour qu'elle connaisse un sursis. John Nathan Turner tenta une longue histoire qui s'étala sur toute la 23e saison, le Trial of a Time Lord. Bon, le procès d'un seigneur du temps. Et cette histoire occupe 14 épisodes. Colin Baker, le moins aimé de tous les docteurs, fut en fait mis à la porte à la fin de cette saison, en 1987. Il fut remplacé par un acteur habitué des programmes pour enfants, Sylvester McCoy, qui redonna au programme ses lettres de noblesse en transformant le docteur en manipulateur cosmique. Les effets spéciaux et le rythme de la série furent tout particulièrement améliorés. Malgré cela, l'épisode diffusé le 6 décembre 1989 est le dernier en date. Silence forcé pour le docteur avant une résurrection en 1996 pour un unique téléfilm produit aux États-Unis. Depuis les X-Files, en effet, la science-fiction est devenue bankable à la télévision. Et le producteur Philippe Segal tente alors d'imposer une nouvelle version du personnage, typiquement pour le public américain. On y voit le docteur, incarné par Sylvester McCoy, se régénérer en Paul McGann et vivre une aventure avec des moyens financiers et de tournage bien supérieurs à ceux de la version de la BBC. Sur la chaîne Fox, le téléfilm ne fait que 5 600 000 téléspectateurs et paradoxalement, il en fera bien plus quand il sera diffusé à la télévision anglaise. Coup de tonnerre en 2005, la BBC décide finalement de relancer Doctor Who et d'en donner les rênes à Russell T. Davies, le créateur de la série innovante Queer as Folk. Et Russell est un fan de la première heure. À l'époque, il m'avait donné cette description du personnage. Écoutez. La description que j'en fais, c'est un voyageur, c'est comme ça que je l'appelle, un grand voyageur. Son boulot, c'est de sauver le monde. Il voyage, il adore aller de destination à destination, il a une machine qui lui permet d'aller n'importe où dans le temps et dans l'espace, et il en profite. Davies fait passer la série dans l'ère moderne. Chaque épisode, dorénavant d'une durée standard, d'une heure, retrace une histoire trépidante, filmée comme toutes les autres séries, autant en studio qu'en extérieur. La série bénéficie d'effets spéciaux et d'un soin apporté au visuel. De plus, la musique est confiée au compositeur Murray Gold, qui va contribuer à donner un son orchestral de grande ampleur, comparable aux musiques des films tels que Harry Potter, par exemple. Ces compositions vont d'ailleurs donner lieu à des concerts. Bon, côté budget, ce n'est pas encore ça, mais cette nouvelle version n'a plus rien à voir avec la précédente. Et cette fois, elle arrive bel et bien en France, sur France 4. En Grande-Bretagne, ce retour réunit 10 800 000 Britanniques. Mais la production un peu chaotique de la série incite l'interprète du docteur à raccrocher les gants un peu trop tôt. Il sera remplacé par un comédien qui va vite devenir un des plus populaires aux yeux des fans, David Tennant. Frima Agyeman succède à Billy Piper, en compagne permanente du docteur, et en 2009, l'équipe de production se renouvelle. La productrice Julie Garner et le showrunner Russell T. Davies, celui qui avait été à l'origine de cette résurrection de la série, passent la main. C'est dorénavant Stephen Moffat, déjà scénariste de nombreux épisodes par le passé et créateur de séries comme Coupling, et bientôt d'ailleurs de Sherlock, qui va prendre les rênes de la série. Et pour la 5e saison, c'est l'acteur Matt Smith, âgé de 26 ans, qui hérite du rôle. Karen Gillian et Arthur Darvill seront à ses côtés, incarnant un couple de compagnons adorés des fans. Gillian rejoindra par la suite le casting des Gardiens de la Galaxie et Darvill celui des séries Broadchurch et de This is Legend of Tomorrow. Les deux personnages se marient à la fin de la saison 5. La 6e saison voit des épisodes tournés aux États-Unis. témoignage du succès international de la nouvelle version de Doctor Who. La série apparaît maintenant en couverture de magazines américains prestigieux comme TV Guide ou Entertainment Weekly. Neil Gaiman, le grand romancier fantastique, écrit un épisode de la série où nous découvrons l'âme du TARDIS. La saison suivante est un long préambule aux épisodes spéciaux marquant le 50e anniversaire de Doctor Who. L'épisode spécial pour le 50e anniversaire sera tourné en 3D et exploité en salle de cinéma dans certains pays. Diffusé en simultané dans de nombreux pays, y compris en France, en ce 23 novembre 2016, il réunit David Tennant et Matt Smith, mais toujours pas de Christopher Eccleston, décidément très fâché avec la production. John Hurt, le grand interprète de Elephant Man, entre autres, y tient aussi un rôle. Et Tom Baker fait une apparition émouvante. Certains webisodes vont même jusqu'à faire le lien entre l'incarnation de Paul McGann et on a droit à une très très brève apparition de Peter Capaldi, uniquement ses yeux d'ailleurs. C'est celui qui, un an plus tard, sera le 12e docteur. Et pour vous dire l'importance que cela a en Grande-Bretagne, c'est aussi à cette époque des 50 ans de la série qu'en plus de toutes les manifestations événementielles et épisodes spéciaux à la télévision, la BBC produit un téléfilm, inédit en France, An Adventure in Space and Time, qui dramatise les débuts de la série et la vie complexe et émouvante que mena son interprète principal, William Hartnell. Enfin, en 2016, on tente un nouveau spin-off à la série, Class, qui met en scène des étudiants de l'école Coal Hill face à des envahisseurs extraterrestres. Bon, la série ne durera que 8 épisodes. En 2017, c'est à nouveau un passage de flambeau et un nouveau cycle pour la série. Oui, parce que vous avez compris qu'à chaque fois, il y a nouveau producteur, nouvel interprète, et hop, la série se reboot, même si elle garde toute son histoire. C'est maintenant Chris Kibnall, le créateur de Broadchurch et déjà scénariste de Doctor Who, qui succède à Stephen Moffat. Il modifie encore radicalement la série de fond en comble. Son style visuel, musical, il recrute une actrice, l'actrice de Broadchurch, Jodie Whittaker, pour devenir la 13e docteur. C'est un nouveau démarrage pour la série, pas un peu comme les années précédentes en fait. Voilà, je vais cependant laisser le mot de la fin à Stephen Moffat, qui a guidé le docteur pendant plusieurs années. C'est un fantastique succès britannique, hein. On l'a vraiment réussi, celui-là, non? Non, mais vraiment, quoi? J'ai l'impression qu'en Grande-Bretagne, on n'est pas trop doué pour se dire « Ah, c'était super, c'était réussi et tout. » J'adore la presse britannique et les fans, mais bizarrement, ils passent leur temps à essayer de prouver que Doctor Who a moins de succès qu'avant. Alors que tous les chiffres disent le contraire, bien avant l'épisode anniversaire. Oh, ça n'a pas autant de succès depuis le départ de David Tennant. Sauf qu'on a gagné 17 millions de téléspectateurs. Si ce n'est pas un succès, ça, il faut qu'il retourne à l'école et reprenne des cours d'arithmétique à la base. Ça marche de mieux en mieux. Voilà, c'est encore parti pour, allez, 20-30 ans, longue vie au docteur.
I'm the doctor.
Doctor Who, la fierté britannique que l'on peut retrouver évidemment sur France 4.